France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On prête à Victor Hugo une interdiction énigmatique. Défense de déposer de la musique au pied de mes vers. Qu'il soit véridique ou fantaisiste, ce commandement de l'auteur des Contemplations dit beaucoup sur les rapports compliqués qu'entretiennent en France la création poétique ou littéraire et la musique. En 1996, le producteur Christian Rosset prenait la résolution de remonter aux origines de ces malentendus créatifs et artistiques en consacrant une série de l'émission Euphonia au chemin contradictoire emprunté au fil des siècles par la musique et la poésie. L'émission que voici en est le premier volet. Dans cet épisode introductif, Christian Rosset s'entretient avec le musicologue Jean-Yves Bosseur, un nom familier des auditeurs de France Culture, et aussi, plus brièvement, avec le compositeur Michel de Couste. Des troubadours aux hybridations soniques des univers de William Burroughs et de Kurt Cobain ou de Tom Waits, poésie et musique dans leur chemin contradictoire. Tel était donc le programme de cette émission, diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 septembre 1996.
Euphonia.
Une émission du programme musical de France Culture, cette semaine, Poésie, musique, chemin contradictoire par Christian Rosset, avec aujourd'hui Jean-Yves Bosseur, compositeur et auteur d'ouvrages sur la musique contemporaine, et la participation de Michel de Couste, compositeur.
Raz Satan krej se monte poja, cela kez de tut se trans voja. Sus preska lausa utra se noja, kuna noja kere heni noja. Kil vezere sabe utad loja, lus prosa susov kui kei koja. Quel plus qu'un oi sen el meriu, mantenen ares a lausur, e la tenen per la gensur. Qui sa faltan entiero dur, nu vol mas un sol pregiador. Rassaricom kere nuduna, ni akoi ni met ni nusona, e chi se ne sta tu c'hai zona, e chi mer sei che nu perduna. Mei no già è tutta persona, che servizi nu guiderdona.
Voilà, nous commençons cette première émission avec un chant de troubadour. C'est Bertrand de Born, c'est Gérard Levotte qui chante et qui est accompagné aux luths. Alors pourquoi ce choix des troubadours, puisque nous avons ce titre, Poésie, musique, chemin contradictoire? Il faut bien dire qu'à cette époque, les chemins n'étaient pas si contradictoires que ça. En général, auteur de musique et auteur de texte étaient la même personne. Et les troubadours circuleront toute cette semaine un petit peu comme une sorte d'âge d'or, à la fois perdu en partie, et en même temps comme stimulation actuelle pour les personnes qui veulent collaborer et faire quelque chose de réussi, puisque ces contradictions, ces conflits, nous le verrons, entre poésie et musique, sont avant tout des sources d'excitation et de création. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai demandé à Jean-Yves Bosseur de raconter un petit peu cette histoire justement des conflits pour arriver essentiellement à notre période, c'est-à-dire ce qu'on appelle la musique contemporaine. Tout au long de cette semaine, nous rencontrerons des poètes qui ne sont pas forcément musiciens et qui parleront de leur point de vue de poète, comme Paul-Louis Rossi, Yves Dimano, Marie-Étienne, Michel Grangot ou André Velter, ou des musiciens chercheurs comme Pierre Luçon et Claudie Malherbe. Alors Jean-Yves Bosseur, pour commencer, puisque j'ai décidé de parler de chemin contradictoire, quel chemin allons-nous suivre pour commencer ?
Et bien là, il n'y a vraiment pas de contradiction pour le coup, puisque, comme vous l'avez dit, l'art des troubadours, c'est vraiment une fusion totale entre le texte et la musique. Et ça remonte d'ailleurs un peu plus loin, puisque par exemple, si on pense aux chansons de gestes, il s'agissait de fresques de très grande dimension, quelquefois de 5000 à 10 000 vers, et dans ces chansons de gestes, on trouve non seulement, bien sûr, la déclamation, mais également le chant. Enfin, les deux sont absolument intriqués. Vous aviez, par exemple, les chansons de gestes s'appuyaient sur ce qu'on appelait des timbres, c'est-à-dire des formules mélodiques populaires, et peut-être prenait-elle l'aspect, alors là, on est obligé d'imaginer, mais enfin, elle devait prendre l'aspect de litanie, peut-être dans l'esprit de certains chants épiques qui existent encore de nos jours dans des traditions extra-européennes, par exemple, arabes. Alors, c'est vrai qu'au XIIe siècle, apparaît dans le Midi et dans le Nord de la France un type de poésie lyrique vraiment originale, bien que témoignant de multiples rapports avec, par exemple, les tropes, les séquences issues du chant grégorien. Et donc, cette poésie va naître de l'imagination des troubadours. Alors, par rapport au chant précédent, les changements de style sont tout à fait remarquables. Par exemple, l'expression de l'amour, qui est manifeste chez les trouvères et troubadours, avec une stylisation, voire une spiritualisation ascétique, avec pas mal de nos connotations hermétiques également, qui va distinguer radicalement leur chant de ceux de ces chanteurs qui étaient des moines itinérants, en fait, qu'on appelait les Goliards, et qui composaient, et évidemment aussi chantaient, des chants de nature très diverse, chants d'amour, satiriques, voire des chants obscènes, pourquoi pas.
Jean-Yves Bosseur, je vous propose maintenant d'écouter une des fugues de l'Atalante fugitive de Michael Meyer, ce qui nous envoie en l'an 1617, c'est-à-dire quand même plusieurs siècles après les troubadours.
Egitus qui sunt in
Alors la poésie des troubadours oscillait, si on peut dire, de manière assez dialectique entre la clarté et l'obscurité, le sentiment et l'expression, avec La Talente fugitive qui est une œuvre assez archaïsante et tardive, puisque 1617, c'est la grande époque du madrigal, et on a l'impression d'une œuvre antérieure. Là, c'est franchement l'hermétisme.
Oui, d'ailleurs, Michael Mayer, dont on ne sait pas grand-chose, était à la fois docteur en médecine, docteur en philosophie dans sa ville natale de Rostock, et c'est quelqu'un donc qui a imaginé la confrontation à l'intérieur d'un même volume de trois éléments. Un élément musical, ce sont 50 fugues à trois voix, des emblèmes symboliques visuels et un texte qui vient développer un peu tout cela, mais avec des connotations alchimiques extrêmement difficiles à saisir. Et il l'a fait, là je le cite, « afin que le lecteur puisse posséder d'un seul coup d'œil les trois objets des sens les plus spirituels, la vue, l'ouïe et l'intelligence ». Donc on a sans cesse, si vous voulez, des rebondissements entre un phénomène de pensée et un autre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des fugues. D'abord, si c'est des fugues, c'est parce que ça correspond à la thématique même de l'ouvrage, c'est-à-dire la fuite d'Atalante. Donc les trois voix sont associées à des phénomènes ou à des personnages tout à fait particuliers. Et tous les procédés musicaux, que ce soit ce qu'on appelle la rétrogradation, les renversements, tout cela est complètement en osmose avec le contenu philosophique et alchimique de l'ouvrage. Donc c'est extrêmement étonnant. Et donc trouve ses correspondances dans les images, par exemple, qui sont placées en regard de chacune des fugues.
C'est un problème de sens très crucial. Et justement, le problème de sens va courir autour de toute cette série de Fonia, puisque le principal reproche que les poètes, surtout maintenant, font vis-à-vis des musiciens, c'est de déformer le sens de leur travail et que les musiciens seraient dans quelque chose de purement abstrait. Alors, d'une autre manière, de même que les troubadours, il y avait cette sorte d'harmonie entre la musique et la poésie, on ne savait pas ce qui commençait, si c'était le son ou le mot. On a la même chose dans la musique, je viens de parler du madrigal, disons, de cette même époque que la Talente fugitive. On pourrait écouter, par exemple, un madrigal anglais de John Daniel. Jean-Yves Bosseur, cet âge d'or du madrigal est non seulement merveilleux sur le plan musical, mais ces musiciens ne prenaient pas n'importe quel poème.
Non, bien sûr, et là encore on peut parler d'une tentative de fusion entre les données poétiques et les données musicales. On a écouté donc une chanson de John Daniel, et là c'est très passionnant le rapport au texte. John Daniel avait dédié ce livre qui a été écrit en 1606 à son élève, qui s'appelait Mistress Anne Grain, et d'ailleurs il la dédicace de la manière suivante, à Mistress Anne Grain, la vertueuse fille du Sir William Grain de Milton Knight. Alors, ce qui est assez fantastique, c'est que dans son livre de chansons, John Daniel fait intervenir comme des personnages, c'est-à-dire que Anne Grain, donc la dédicataire, devient Daphné. Lui-même se met en scène et il devient Apollon avec sa lyre. On y découvre même un jeu de mots, un jeu sur le mot de grain par rapport à green et chloris en grec. Alors le postlude est tout à fait étonnant dans ce sens-là, c'est un postlude là que nous entendons actuellement et qui est pour Lutte. Son titre c'est « Miss Anne Grain, her leaves be green ». Non, on voit évidemment tout de suite les allusions entre le nom propre et l'adjectif. Les variations sont au nombre de 14, parce que ce nombre était celui des vertus féminines dans l'art. Ainsi, le sonnet de Pétrarque, alors, est constitué de 14 vers. Il s'agit de variations sur un thème populaire. Or, cette mélodie commence un ton plus haut qu'elle ne s'achève. Et là, on voit à quel point le texte poétique déteint sur le contexte musical, sur l'écriture proprement dite, puisque s'il y a cette transposition, c'est que lorsque Daniel, la transposition supérieure, il l'a fait passer de La à Sol. C'est-à-dire, puisque les notes dans le langage anglo-saxon sont numérosées de A à G, eh bien on passe de A à G, qui sont précisément les initiales d'Anne Grain. De même, il va jusqu'à changer l'accord du luth, ne gardant tel quel que deux cordes, qui sont les troisième et les sixième, précisément le La et le Sol. Donc vous voyez, ce sont des allusions très souterraines, très enfouies dans l'œuvre, mais quand même qui font le ferment de la stimulation poético-musicale du compositeur.
Jean-Yves Bosseur, alors là, nous écoutons de la musique instrumentale et ça pourrait paraître étonnant. Enfin, vous nous avez bien expliqué comment ça fonctionne, mais on voit bien que les relations entre poésie et musique ne sont pas uniquement comment mettre en musique des vers. Et l'importance, l'influence du verbal dans le sonore et le musical est extrêmement important. J'en profite pour dire que toute cette semaine, on développera ces thèmes que nous abordons aujourd'hui, et notamment sur les relations qu'il peut y avoir entre les nombres, les rythmes dans les deux domaines. Mais maintenant, nous allons aller carrément au XXe siècle, et nous allons commencer avec une œuvre extrêmement importante qui pose tout un tas de problèmes, qui est le Pierrot Lunaire de Schoenberg. Alors le Pierrot Lunaire est basé sur un poète français, des poèmes d'Albert Giraud, qui sont pour nous, quand on les lit, des poèmes, je dirais pas médiocres, parce qu'il faut peut-être éviter de donner des jugements de valeur, mais qui sont quand même de la poésie très, très, très en retrait par rapport à l'époque de Schoenberg, avec des expressions poulées sur la lune malade, le Pierrot blafard, les vomissements de sang et j'en passe, qui évoquerait plutôt les pires moments de la fin donc du 19e siècle. Schoenberg a fait traduire ça en allemand et offre une œuvre complètement moderne, nouvelle, très ambiguë, qui va avoir une importance, un retentissement considérable à notre époque.
Oui,
ça va bouleverser tous les musiciens.
Oui, ça a une importance beaucoup plus par le type de voix à laquelle elle fait appel que par la relation, si on peut dire, texte-musique, ça c'est clair. Notamment, donc, c'est une des toutes premières œuvres qui introduit ce phénomène qui va devenir extrêmement important tout au long du siècle, qui est le Sprechgesang, le parler-chanté. Et là, c'est sûr qu'il y a une espèce de corporéité de la voix qui est portée à un niveau que ne connaissait pas l'art lyrique jusque-là. Et ce qui est à signaler également, c'est que Schoenberg ne souhaitait pas que ce soit une chanteuse qui prenne en charge le texte, mais une diseuse, comme par exemple celle qui récitait les mélodrames sur fond musical, comme ceux de Richard Strauss. Il y a une lettre, d'ailleurs, de Schoenberg où il fait clairement part de ses intentions. Il dit « Je dois vous le dire tout de suite ». Et catégoriquement, Pierrot Lunaire ne se chante pas. Vous détruiriez complètement l'œuvre si vous le faisiez chanter. Et chacun aurait raison de dire, on n'écrit pas ainsi pour le chant. Donc Schoenberg va exploiter ce style de la Sprechstimme, qui était volontiers exploité dans les cabarets allemands aussi au début du siècle, en particulier à Berlin. Et il faut dire que Schoenberg avait lui-même dirigé un orchestre dans un de ses cabarets et qu'il avait écrit plusieurs chansons. Mais alors là, il avait peut-être choisi des textes quand même de plus grande envergure, notamment une des chansons, Galatea, a été écrite sur un poème de Wedekind. Donc c'est tout à fait un autre registre.
On pourrait dire que ce conflit entre poésie et musique symbolise aussi le conflit qu'il y a toujours eu chez Schoenberg entre l'homme qui ouvre, disons, de nouveaux horizons et l'homme de tradition qui regarde en arrière. Alors que nos auditeurs qui ne parlent pas couramment allemand se rassurent, ils n'ont pas, comme on l'a dit, perdu grand-chose. C'est quand même curieux ce rapport, disons, très inégalitaire entre la poésie et la musique. Mais dans le cas de Schoenberg, il s'agit de quelqu'un qui a donc pris un objet plus ou moins mort dont il s'est emparé et à partir duquel il a inventé une forme. Maintenant, nous allons aborder Luigi Nono, qui a l'avantage pour nous d'être un compositeur qui a travaillé avec des poètes vivants, qui a une immense culture et qui a, dans beaucoup de ses œuvres, usé de quelque chose d'extrêmement important, qui sont des collages. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un poète qui écrit, disons, une œuvre entière, ou de prendre une poésie existante ou non, il a fait sa musique en prenant des fragments de citations à droite et à gauche.
Oui, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Luciano Berio, par exemple. Il faut dire aussi que chez Nono, il n'y a pas que des textes poétiques. Il peut y avoir des textes qui ont une incidence politique, puisqu'on sait que Nono a été un artiste extrêmement engagé politiquement. Donc, il s'est servi, par exemple, je pense à Canto Sospeso, de lettres de prisonniers politiques. Et donc là, pour lui, il y avait une espèce de continuum possible entre l'élément poétique et un élément qui peut être un élément trouvé. Nono pose un problème extrêmement important, c'est celui de l'intelligibilité du texte. Et là, il y a une polémique très importante qui s'est, à mon avis, à signaler, c'est celle entre Stockhausen et lui, au cours des années 50. Nono, par exemple, Stockhausen lui reproche d'avoir utilisé le texte comme s'il s'agissait, là je cite Stockhausen, de dérober son sens au public pour lequel celui-ci n'a pas de raison d'être. Il ne fait pas déclamer les textes, mais il les cache dans une forme musicale si intensément stricte et dense qu'on ne comprend plus rien à l'écoute. Alors Stockhausen pose le problème, mais alors à ce moment-là, pourquoi au fond un texte et pourquoi celui-là? Et très violemment, Nono a répondu que, en réalité, c'est l'esprit même du texte, même si on ne comprend pas chaque parole, chaque élément, c'est l'esprit dont il s'est imprégné et qui doit intervenir au plus profond de l'œuvre et qu'il n'est pas important de tenir à cette lisibilité, à cette intelligibilité explicite. Donc là, vraiment, il y a une espèce de débat qui est évidemment un débat extrêmement aigu dans la musique d'aujourd'hui, où souvent l'écriture est très complexe, ce qui rend la compréhension, encore une fois, du texte extrêmement aléatoire. Mais dans un certain nombre de cas, dont celui de Nono, le texte est quand même le détonateur, c'est le catalyseur de l'œuvre musicale. Il peut aussi il peut guider, si vous voulez, la forme générale de l'ouvrage. Donc c'est quelque chose qui n'est pas un simple prétexte, puisque par exemple, toujours dans ce texte, Stockhausen disait à Nono, mais pourquoi ne pas avoir pris des phonèmes, pourquoi pas A-E-I-O-U, ce serait beaucoup plus pratique pour le compositeur qui n'aurait pas à s'encombrer d'un texte. Mais c'est pas du tout le propos de Nono qui, lui, se charge de la capacité émotionnelle du texte.
D'ailleurs, dans l'œuvre dont nous allons entendre un extrait qui s'appelle « Malheur au monstre froid », il y a un texte assez important qui est un collage fait par un de ses amis écrivains et qui prend aussi bien du Lucrèce que de, je crois, des choses de Pound ou de Rilke. Nono s'est référé à Jabès, à Hölderlin. On peut dire qu'il a une très très grande culture. Et l'essentiel, finalement, je crois que Nono devait supposer que l'auditeur est cultivé et est dans cet état d'esprit, enfin, culturel, et que donc la musique peut exprimer, comme vous l'avez dit, des émotions sans qu'il y ait besoin d'appuyer, de souligner sans arrêt pourquoi il doit y avoir des émotions. Elle est là, un point, c'est tout. Évidemment, on est très proche du murmure. D'ailleurs, je crois que Nono disait qu'il était tout à fait enchanté de l'usage de nos jours du Walkman, qui peut paraître assez étrange parce que la plupart des compositeurs maudissent ces machines, mais il disait qu'avec le Walkman, on peut avoir une écoute au plus près du son et entendre des choses imperceptibles. Tout le dernier Nono est proche du silence, en fait. Et sa musique est relativement une forme de tragique moderne qui n'est pas ce tragique en poulet qui pouvait sévir avant, mais quelque chose au fond de une sorte d'angoisse sourde. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de Stockhausen. Alors, qu'est-ce que Stockhausen répond à cette question des conflits entre le verbe et donc la poésie, notamment, et la musique ?
Bien, Stockhausen, lui, fréquemment, se forge son propre matériau, soit phonétique, soit poétique. Et par exemple, il va jusqu'à écrire des textes qui vont devenir la partition elle-même pour l'interprète. Alors à cet égard, d'ailleurs, puisqu'on a parlé de Nono et de Stockhausen, il faut dire que Nono lui-même a inscrit des phrases d'Hölderlin dans une partition qui sont les Hölderlin Fragments pour Quatuor. Mais dans ce cas-là, le musicien ne doit surtout pas laisser entendre explicitement le texte. Le texte est là pour le faire méditer, si vous voulez. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve, mais avec sur un plan beaucoup plus mystique, dans une pièce de Stockhausen qui s'appelle « Venu des sept jours », en allemand « Aus den sieben Tagen », qui est une pièce qu'il a composée, si on peut dire composée, parce que c'est uniquement donc des pseudo-textes poétiques.
Pourquoi pseudo ?
Ah non, non, là, non, ça ne se veut pas comme une poésie à part entière, c'est une espèce de support pour l'imagination, pour l'intuition, parce qu'il appelle ça des musiques intuitives, l'intuition de l'interprète. Donc je ne veux pas dévaloriser, là. Mais Stockhausen ne les a pas conçus comme poésie, mais par contre c'est le fondement des modes d'action et de réaction que les musiciens vont poursuivre pendant une sorte d'improvisation, si vous voulez.
Je crois que Stockhausen avait le désir d'être poète, puisque je crois que dans ses premiers leaders qu'il a fait, il avait écrit lui-même ses propres textes, et qu'il est l'auteur complet de son grand opéra poético-dramatico, ce que vous voudrez, Liszt.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors là, par exemple, je peux vous citer, parce qu'ils sont très courts, certains des textes qui sont donnés aux musiciens comme unique information pour leur jeu. Par exemple, illimité, c'est « joue un son avec la certitude que tu as tout le temps et tout l'espace ». Et en fait, tout au long de l'élaboration de ces textes, Stockhausen était sans doute spirituellement très proche d'une situation qu'il propose dans un autre texte, Poussière d'or, vit 4 jours tout seul, sans manger, dans le plus grand silence, sans beaucoup de mouvement, dort aussi peu que nécessaire, pense aussi peu que possible.
On entre le monostiche, le haïku, qui sont des formes poétiques particulières.
Oui, mais là par contre, ces petites situations énoncées verbalement donnent quelquefois lieu à des... Bon, lui, il n'aurait pas le terme, mais enfin, des improvisations qui peuvent durer 1 heure ou beaucoup plus.
C'est une manière de montrer que le temps de la poésie et le temps de la musique n'est pas le même, puisque je pourrais dire que dans le Nono, dont nous avons entendu un court extrait qui dure plus de 40 minutes, le texte tiendrait facilement dans une page, simplement. Alors ce sont des œuvres très longues, en effet. Quelques mots peuvent donc suggérer de longs parcours. En fait, on n'est pas si éloigné de ça, de l'idée de la poésie, parce que si on pense à la chanson, évidemment, c'est tout à fait le contraire. Mais ces chemins contradictoires, ces conflits se résolvent d'une certaine façon dans ce type d'œuvre. On pourrait dire que les frontières, donc, entre l'aspect, disons, j'ai bien envie d'employer le mot poète à propos de Stockhausen, comme on l'emploiera à propos de Cage, même si Cage est plus un vrai poète, d'une certaine façon. Stockhausen, c'est plutôt, je ne sais pas, c'est plus proche d'une sorte de journal intime ou de notation d'idées, d'une certaine façon. Alors, il y a, en France, un mouvement qui est un peu curieux, disons, par rapport au reste du monde, mais qui est très important, qui s'est appelé la poésie sonore. On verra un peu plus loin, un peu plus tard, avec les Américains, que la question ne se pose pas là-bas, mais en France, c'est un mouvement très important, et Jean-Yves Bosseur, vous y êtes beaucoup intéressé.
Oui, je m'y intéresse beaucoup, mais ce n'est pas seulement en France. Hein. En fait, dans les pays scandinaves, en Italie, en Allemagne, la poésie sonore est extrêmement vivace, et c'est vrai que ce sont des artistes qui revendiquent une place à part, c'est-à-dire qu'ils ne se veulent pas uniquement des musiciens de la voix, c'est pas du tout ça, ils ne se veulent pas non plus des poètes de l'écrit, ils situent leur démarche tout à fait ailleurs, c'est-à-dire par rapport au corps et à la voix, mais sans liaison évidente avec, par exemple, la musique. Et donc, par exemple, la poésie sonore pour Bernard Heitzig, c'est depuis un peu plus de 30 ans qu'elle existe, une volonté de substituer, une tentative d'abord de libération du texte de la page, et puis une volonté de substituer totalement ou partiellement au style ou à la machine à écrire le magnétophone qui, à ce moment-là, devient un nouvel instrument, un instrument de travail et de création. Et donc Bernard Heitzig va utiliser bandes magnétiques, cassettes et disques comme support et véhicule de diffusion, si on peut dire, à la place du livre. Ce qu'il veut aussi, c'est retrouver les sources énergétiques du souffle et du cri, se retourner avec passion vers des cultures orales, oubliées ou négligées. Et il faut dire, par exemple, que Zumthor a écrit un certain nombre de textes importants sur les troubadours. Et bien, il a aussi écrit sur la poésie sonore parce qu'il considère qu'il y a là une espèce de réflexion entre ces deux phénomènes, c'est-à-dire cette volonté de, pour le poète sonore, de se remettre en, d'incarner le texte dans toute sa, dans toute son intensité, si vous voulez. Et donc, il y aura effectivement une espèce de grande divergence entre les musiciens, par exemple, qui pratiquent beaucoup la voix, comme Berriot ou Nono ou d'autres, et les poètes sonores, parce que les musiciens font appel à des interprètes, par exemple, pour prendre en charge les qualités vocales qu'ils désirent développer. Mais par contre, les poètes sonores se mettent en scène et se donnent corps et âme, on peut dire, dans les performances ou dans les enregistrements.
H comme God. H comme repère, H comme signal, H comme sonnerie, comme ticket, comme panneau, comme balise, H comme horaire, comme parlophone, comme carte, H comme habanera, H comme écouteur, comme logos, comme cadran, comme PFTS, comme contribution brute, H comme Telex, comme symbole, comme langage ou COBOL ou Fortran ou BASIC ou DLI ou APL, H comme flash, comme câble, H comme AIC, comme analyse, et comme réunionite, et comme bilan, H comme chiffre d'affaires, ou comme comptabilité analytique, et comme rigolade, et comme budget, H comme effet pervers, et comme statistique, et comme ratio, H comme page, et comme note de service, et comme fonds de roulement, comme actif net, et comme chaussée d'Antin, et comme carrefour, H comme agio, et comme spread, et comme contrôle, et comme trésorerie, et comme contentieux, H comme halbi, H comme pépin, comme hebdomadaire, et comme coup de fil, et comme rendez-vous, H comme échéance, comme règlement judiciaire, comme concurrence, et comme comité, et comme vacances, H comme peau de banane, comme repos, H comme halbran, ou comme crise, H comme reprise, et comme cyclique, et comme...
Voilà, on est proche de l'esprit de performance, il y a aussi un côté radiophonique. Mais par exemple, chez les Américains, il n'y a jamais eu de coupure d'une certaine façon avec les traditions orales. On a pu voir des performances de gens comme Jerome Rottenberg qui reprenaient certains poèmes indiens, par exemple, en gardant de grandes traditions. Il est vrai, en Europe, d'une certaine façon, si ce courant de poésie sonore a pu comme ça apparaître, c'est parce que les poètes étaient coupés de l'expression vocale, hein. Je parle même pas du style de poésie. On a bien vu que Bernard Heitzig, ça ressemble pas vraiment à René Char, mais plutôt dans la manière d'être sur scène et la voix porte. Alors, aux États-Unis, c'est très classique. On a vu ça avec la Beat Generation, notamment. Allen Ginsberg a fait des tas de lectures. Prenons quelqu'un qui est à la frontière entre poésie et une forme innommable, je dirais, ni roman ni poésie, qui est William Burroughs. Non seulement il a fait lui-même des performances, mais énormément de musiciens, notamment de rock, qui se reconnaissent chez ce vieux bonhomme, ont désiré collaborer avec lui. Ce qui est le cas de Tom Waits, qui a fait avec William Burroughs une sorte de comédie musicale qui a été mise en scène par Bob Wilson, qui s'appelle The Black Rider. Avant d'en parler, je vous propose d'en écouter un extrait avec la voix de William Burroughs et la musique de Tom Waits.
Thank you. tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. When it gets too hot for comfort and you can't get ice cream cones, tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. Just like those bamboo babies down the South Sea tropic zone, tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. Off your skin and dance around in your bones. When it gets too hot for comfort and you can't get ice cream cones, tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones. Just like those bamboo babies down in the South Sea tropic zones, tain't no sin to take off your skin and dance around in your bones.
Mais Christian, je dirais quand même qu'il y a une certaine affinité entre le travail de Bernard Heitzig et celui des Américains qui ne nomment pas poésie sonore, leur production, mais text sound composition. Et parce qu'en fait, c'est toujours, enfin, ils préservent toujours l'aspect sémantique du travail sur le texte, intégrant éventuellement les moyens offerts par le magnétophone pour dédoubler, par exemple, certaines sections du texte, ou bien, par exemple, ajoutant également des interventions instrumentales. John Giorno, Brian Gaisin, soit ont collaboré à des groupes de rock, soit, par exemple, dans le cas de Brian Gaisin, ont fondé leur propre groupe pour, amplifier, si on peut dire, les capacités, le potentiel vocal, le potentiel charnel, je dirais presque, de leur poésie.
Alors, chez les musiciens rock américains, il y a une, comme je disais, il y a une véritable fascination pour l'œuvre de William Burroughs. Avec Tom Waits, c'est une véritable collaboration. Mais il y a un disque très curieux, je crois, qui n'est pas très connu, qui est un disque où Kurt Cobain, le chanteur-guitariste de Nirvana, joue de la guitare électrique pendant que William Burroughs dit un texte. En fait, ils ne se sont jamais rencontrés. Ça a été fait par mixage, par la boîte de disques, Burroughs ayant enregistré son texte et Cobain improvisant en même temps. Mais peut-être que c'est une des possibilités de rencontre entre la poésie et la musique, le mixage de nos jours.
Fight tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him. Fight tuberculosis, folks.
Nous avons rencontré Michel Decouste, compositeur, qui, dès ses premières œuvres, a manifesté un intérêt très profond pour le texte. Plus tard, il écrira sur des textes de Joe Bousquet, sur Claude Minière, etc. Mais autour de 64, il a envisagé, à la suite aussi, il faut bien le dire, de Pierre Boulez, de travailler sur des textes de René Char. Mais il s'est affronté à ce moment-là au problème de conflit que l'on peut avoir de l'autorité du poète par rapport au musicien.
C'est une histoire qui m'a beaucoup affecté, parce que j'avais écrit en 64 à René Char, 63-64 au moment, pour lui demander l'autorisation. Je lui avais donné des poèmes qui étaient d'ailleurs extraits du Marteau sans maître. Hein, et René Char m'avait envoyé une lettre très gentille en me disant « Bien sûr, il n'y a aucun problème ». Je lui avais décliné, mais enfin, en lui disant bien que j'étais un compositeur dit sérieux, un peu dans la lignée de Pierre Boulez, de la, enfin, toute modestie mise à part, je dirais, mais quelqu'un qui était dans la modernité quoi, de l'époque et par rapport à cette musique. Donc il m'avait envoyé une lettre très gentille, me disant « Bien sûr, je vous donne toutes les autorisations possibles et imaginables. » Bon, il se trouve que pour des raisons X, Y, Z, j'ai perdu cette lettre. Ce dont je ne comprends pas pourquoi je l'ai perdu, parce qu'on ne perd pas une lettre de René Char, surtout à cette époque-là, quand on a, je dis, j'avais 28 ans, hein, bon. Très bien, j'avais fait un peu le deuil de ces mélodies, qui ont été chantées deux fois avec le texte de René Char, quand même. Hein. Et puis, puisque j'avais l'autorisation, elle n'était pas éditée, je n'étais pas chez un éditeur à l'époque, donc ça n'avait pas grande importance, j'avais l'autorisation morale, si vous voulez. Et puis, quand je suis rentré aux éditions Salabert en 1980-81, j'ai réécrit à René Char pour lui demander l'autorisation de publier Ellipse. Et j'ai eu un refus, mais un refus catégorique. Et je crois, à ce moment-là, qu'il avait donné, d'ailleurs, je crois savoir qu'il a donné des droits à un compositeur dont je ne me souviens pas le nom, en disant que c'était le seul qui avait le droit d'imposer de la musique sur ses paroles. Enfin, sur ces textes. Je dis ces paroles parce que je crois que même le mot a été employé, parce que je crois que ce n'était pas seulement pour la poésie, mais aussi pour la prose. Et il y avait, je me souviens, d'une émission ou d'un écrit de René Char en disant qu'il était très mécontent après Pierre Boulez, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a très peu de passages du Marteau 100 mètres qui sont cités dans le Marteau 100 mètres, et qu'à partir de cela, à partir d'un titre générique sur un livre, on se permet de prendre 15 phrases. Je pense qu'il l'avait vécu un peu comme une trahison. Je n'ai jamais approfondi cela, et à ce moment-là m'est venue l'idée, parce que j'avais beaucoup travaillé avec Claude Minière, qui était un poète qui a eu beaucoup de... qui a été assez en vue dans les années 65-70, et qui m'avait fourni des textes, je dirais, sur lesquels j'étais tombé, parce que j'avais lu pas mal de ses bouquins, et qui m'avait inspiré. Donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de demander à Claude Minière s'il pouvait faire l'inverse de ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire de se glisser dans les contours mélodiques, le rythme et le débit, en quelque sorte, avec les accents, les désinences, les anacrouses, que m'avait suscité le texte de René Char. Je sais aussi que Claude Minière était proche de cette littérature, qu'il la connaissait bien. Et donc, j'ai demandé à Claude Minière s'il serait intéressé de faire ce type d'exercice quelque part et de faire l'inverse. Et ça lui a beaucoup plu. Ça lui a beaucoup intéressé, donc je lui ai donné la partition, Claude Minière ne lit pas la musique, hein, mais je lui ai donné la partition avec des brèves, des longues, des très brèves, des très longues, en lui montrant, et ça se voit à l'œil nu, je dirais, les hauteurs, si veut. Comme je n'avais pas d'enregistrement d'Ellipse, je n'ai pas pu lui faire écouter, et en travaillant comme ça, et en prenant le texte de René Char, et en travaillant sur ces courbes, sur ces sauts même, hein, parce qu'il y a des choses qui vont, ça va très très haut, c'est encore une écriture très distendue, en lui décrivant un peu la partie du piano, puisque ce sont des mélodies pour piano et chant, et il m'a proposé des paroles, et là-dessus, nous avons retravaillé tous les deux, sur les, je ne sais pas, la quinzaine de vers, 15-20 vers qui existent. J'ai retravaillé avec Claude Minière quelques mots qui n'allaient pas, qui étaient, comment dirais-je, malaisés, à la fois pour des raisons techniques et pour des raisons aussi de, je dirais, de signifier, qui n'allaient pas avec par exemple un saut musical, ou quand j'avais envisagé quelque chose au contraire de très lisse, bon, si j'avais un mot trop dur, je lui ai demandé de changer, et nous avons travaillé comme ça sur deux séances, et puis j'ai glissé donc en quelque sorte dans la musique le texte de Claude Minière, ce qui m'a permis de sortir je ne dirais pas récupérer, mais de ne pas enterrer cette chose qui avait été générée par René Char. Voilà.
bateau perdu.
Perdu.
Open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to, like, open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. I had to, like, open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. Come out to show them, 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 come out to show them.
Voilà, c'était pour faire un contraste, une des premières œuvres de Steve Reich qui s'appelle Come Out, qui est intéressante parce que le matériau poétique peut être d'ordre extrêmement diversifié, comme on a pu le voir, et ça peut être un fragment d'une parole prise dans un enregistrement, et c'est simplement cette découpe qui donne donc le titre « Come Out » qui est pris dans une phrase plus longue, et le travail rythmique qui fait qu'il y a à la fois un travail poétique et un travail musical. Alors Jean-Yves Bosseur, maintenant, puisque j'ai dit que vous étiez compositeur, vous avez travaillé beaucoup avec des poètes, et notamment avec mon invité de demain, qui sera donc Paul Wirossi, qui est un des poètes vraiment intéressants actuellement en France, et qui, alors le pont est peut-être un peu simple, et a des côtés aussi minimalistes.
Oui, alors pour ma part, j'aime bien travailler avec les écrivains, vraiment, à partir soit de leurs textes, soit essayer de leur faire inventer quelque chose, plutôt que de travailler à partir de textes préexistants. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Michel Butor, avec Jean-Pierre Fay, avec Bernard Noël, etc. Et à chaque fois, en essayant d'obtenir quelque chose qui soit spécifique à ce que l'on va faire entendre, c'est-à-dire en fait non pas quelque chose qui correspond à un livre, mais quelque chose qui va être entendu à travers, si on peut dire, le filtrage d'une voix chantée ou d'un groupe de voix, etc. Et avec Paul-Louis Rossi, ça s'est passé un peu comme ça, c'est-à-dire que il m'a donné un certain nombre d'éléments de texte d'un livre qui s'appelle Faïence, et puis on les a réorganisés complètement en fonction de la forme que je souhaitais donner musicalement. Donc ce ne sont pas des textes, j'ai un petit peu fonctionné comme ça aussi avec Edmond Jabès, c'est-à-dire que il n'a pas écrit spécifiquement, à la différence de ce qui s'est passé avec Kenneth White ou avec Bernard Noël, il n'a pas spécifiquement écrit un texte, mais par contre, on a conçu une sorte de temporalisation des textes qui coïncide avec ce que je souhaitais faire musicalement et avec, par exemple, dans le cas de la pièce que l'on va entendre, qui s'appelle aussi Faïence, le fait qu'il y ait deux chanteuses, par exemple, avec tous les effets que cela peut produire, le fait qu'il y ait aussi trois clarinettistes, donc toute la possibilité de commentaire instrumental par rapport à la trame vocale, des choses comme ça.
Morceau, morceau de verre, danse dans le creux, comme un cerf.
Le soir, sur le quai du petit port, entre l'auberge et la halle aux poissons, un orphéon jouait une musique sacrée. Un couple prêchait la foule des quelques hommes, des jeunes filles et des enfants.
We are not Jehovah's Witnesses. We are not communists. We do not represent any organization. We stand with the Apostle Paul who said, I am not ashamed of the gospel.
Tout était clair dans l'air de la nuit.
Voilà donc un extrait de Faïence. Alors qu'en est-il dans ce cas de l'intelligibilité ?
Eh bien, avec Paul-Louis Rossi, d'ailleurs, nous avions choisi de travailler sur ces degrés d'intelligibilité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne ressent, on n'entend que quelques mots, d'autres moments où c'est vraiment le travail phonétique qui compte, et puis par contre, il y a quelques textes que j'ai choisi de faire lire par une ou d'autres chanteuses, et là où, évidemment, le problème de la lisibilité n'apparaît plus. Donc on a joué là-dessus.
Et la langue française ?
Comment ça, la langue française ?
Quel est le plaisir de faire sonner la langue française ?
C'est très difficile parce que en réalité, il est difficile de passer d'une manière totalement continue du parler au chanter, à la différence, par exemple, de ce qu'on peut trouver dans la langue allemande ou la langue anglaise. Donc c'est vrai que on est assez prisonnier, mais après tout, c'est un défi et ça vaut la peine de le prendre en charge.
Alors, vous avez évoqué le problème des onomatopées dans la musique contemporaine et des problèmes de perdition de sens quand la poésie est mise en musique. Alors évidemment, il y a un domaine qui est le rock'n'roll où on ne se pose pas toutes ces questions, on y va carrément. Et c'est ce qui se passe avec une œuvre très remarquable de Monsieur Little Richard qui s'appelle Tutti Frutti. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, on va comprendre tout de suite. Poésie, musique, chemin contradictoire par Christian Rosset, en compagnie aujourd'hui de Jean-Yves Bosseur, compositeur. Réalisation Jean-Marc Klaus, Elmander Babaye. Nous nous retrouverons demain à 14h30 en compagnie de Paul-Louis Rossi, le poète de Faïence.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 septembre 1996. À suivre.